Headline edition, July 8, 1947. The Army Air Forces has announced that a flying disc has been found and is now in the possession of the Army. Army officers say the missile, found sometime last week, has been inspected at Roswell, New Mexico, and sent to Wright Field, Ohio, for further inspection. Headline edition will bring you special reports and interviews in a moment.
Bonjour à toutes et à tous, Christophe Jubien pour vous accueillir à bord de votre émission Les Témoins de l'Invisible, consacrée aux phénomènes inexpliqués mais bien réels que sont d'une part les EMI, les expériences de mort imminente, et d'autre part les ovnis, les objets volants non identifiés. J'ai le grand plaisir aujourd'hui d'avoir au bout du fil pour la seconde semaine consécutive un grand monsieur de l'ufologie française, Gildas Bourdet, qui consacre une partie de sa vie à l'examen scrupuleux de l'affaire de Roswell. Il vient de publier la somme de ses recherches aux presses du Châtelet dans un livre intitulé Roswell, la vérité. Le plus étonnant dans l'affaire de Roswell concerne les innombrables témoignages qui plaident en faveur d'un événement étrange survenu en juillet 1947, non loin de la base des bombardiers atomiques de Roswell, Nouveau-Mexique. Gildas Bourdet.
Il y a une quantité de témoins incroyables aujourd'hui, et ce qui est presque aussi incroyable, c'est que ça... Le secret résiste encore, si
oui,
je puis dire.
C'est ça qui est extraordinaire, parce que quand on lit votre livre, moi j'ai été frappé par le nombre de témoignages en faveur de débris exotiques, mais surtout des gens disant, voilà, mon père m'a révélé sur son lit de mort.
Alors il paraît
que, voilà, il avait vu...
Il y a des témoins de première classe, de première qualité, parmi les militaires notamment, qui ont... gardé l'OVNI, parce que l'OVNI accidenté a été gardé pour la nuit parce que c'était trop tard pour le ramener, etc. Et qui ont vu l'OVNI, qui ont décrit l'OVNI comme une espèce d'engin un petit peu de forme assez arrondie. Et il y a plusieurs témoignages comme ça.
Ouais. Et de gens qui ont vu les humanoïdes aussi.
Et qui ont vu les humanoïdes. Ouais. Alors là aussi, c'est un énorme problème, cette question des humanoïdes, comme vous dites, des êtres qu'on a trouvés, parce qu'on se demande quelle était la nature de ces êtres, si c'était des vrais extraterrestres, ou alors peut-être des... On commence à, vous savez, aujourd'hui, la science actuelle, on commence à soupçonner qu'on arrivera peut-être à fabriquer un jour des espèces d'entités, et on se demande maintenant si c'était pas le cas avec ces êtres-là.
Mmh. Pour ce qui vous concerne, vous pensez que ça pourrait être le cas de je sais pas moi, de...
D'espèces d'entités, oui, conçues en laboratoire. C'est tout à fait possible.
À l'époque aussi, vous pensez qu'ils auraient pu faire ça? Oui.
Ah ben, pas nous, pas l'humanité.
Pas l'humanité, hein.
Des d'autres humanités.
Ouais. Alors, quand et par qui l'histoire des cadavres a-t-elle fait irruption dans l'affaire Roswell? C'est au départ, en 78, on parle surtout de débris.
Oui.
Et qui, le premier, a dit, ben moi, j'ai vu des humanoïdes?
Alors, je crois que c'est un employé de la maison des pompes funèbres de Roswell, qui s'appelait Glenn Dennis, qui a raconté, c'est un témoin très important, hein, qu'il était venu à la base de Roswell pour amener un soldat qui avait été blessé dans un accident de moto, et il avait ses entrées à la base, on le connaissait et tout. Et puis, à l'infirmerie, à l'hôpital, il a croisé une infirmière qui sortait d'une chambre qu'il connaissait et qui avait l'air bouleversée. Elle se cachait le visage avec une serviette parce qu'elle lui a expliqué ensuite, elle voulait le revoir le lendemain. Elle lui a dit, oh, allez-vous-en, vite, vite, Glenn, qu'est-ce que vous faites là? Vous allez avoir des ennuis. Mais elle a voulu le revoir le lendemain, elle lui a raconté qu'elle avait été requise pour participer à une tentative d'autopsie de cadavres non humains qui sentaient une odeur épouvantable, en l'occurrence. Parce que c'était probablement les premiers cadavres qu'on avait laissés plus longtemps sur le terrain près du ranch, près du terrain du ranch de Brassel, probablement. Elle a fait une description assez précise qui a été redessinée par un dessinateur professionnel. On en a le dessin qui est paru dès 1991 dans le premier livre de Randall et Schmidt. Et je l'ai repris dans mon livre, dans le cahier d'illustration. On voit ce dessin. Donc, c'est tout à fait étonnant. J'essaie d'être avec des grands yeux, mais enfin, qui sont très frêles, très, très minces. Ça a été décrit donc dès cette époque-là par cette infirmière. Alors, le problème, c'est compliqué ensuite parce qu'il a été mis en doute ce témoignage pendant un certain nombre d'années parce que Glenn Dennis ne voulait pas donner le nom de l'infirmière. Or, en réalité, on sait maintenant, parce qu'on l'a retrouvée, l'infirmière, on a fini par la retrouver, et figurez-vous qu'on l'a retrouvée à la retraite à Roswell. Et elle a coulé des jours paisibles, si on peut dire, à Roswell, on est sans être inquiété, parce que Glenn Dennis avait protégé son identité.
Un gentleman.
Oui, c'était un gentleman, oui. C'était un type bien, en fait.
Ouais. Alors, il y a eu ensuite d'autres, évidemment, d'autres témoignages qui, à partir de Glenn Dennis, ont commencé à affluer sur la récupération d'humanoïdes. Et moi, celui qui m'a le plus impressionné, il émane d'un des témoins clés, évidemment, de cette affaire, c'est Walter O, c'est-à-dire l'homme qui a annoncé sur l'ordre du général Blanchard le crash en 1947. Donc, c'est un militaire de Roswell.
Il était colonel Blanchard. Il est devenu général. Par la suite, il a fait une carrière sensationnelle. Il est arrivé au sommet de la hiérarchie militaire, général 4 étoiles. Entre parenthèses, on peut observer que s'il avait fait une énorme bourde en 1947, il serait certainement pas arrivé jusqu'à général 4 étoiles.
Ouais. Bah, ils ont tous eu une très belle carrière ensuite, même Jess Parcell. Hein.
Jess Parcell, il a été promu au Pentagone par la suite, mais il a fait une carrière. Il a arrêté sa carrière, on sait pourquoi. Parce que sa mère était très malade et sa sœur lui a dit qu'il fallait qu'il s'occupe d'elle parce qu'elle n'avait plus le temps, elle ne pouvait plus s'en occuper.
Ouais.
Et c'est pour cette raison-là, un autre gentleman, si on peut dire, c'est pas qui l'a amené à quitter l'armée pour s'occuper de sa mère malade.
Ouais. Alors, je voudrais qu'on revienne à Walter O, parce que Walter O...
Walter O, donc... lui, c'est un personnage tout à fait intéressant.
Ah,
moi,
oui.
Je l'ai rencontré quand j'ai commencé vraiment à enquêter... En profondeur, je suis allé à Roswell en 1995 pour mon premier livre qui est paru cette année-là. Et je l'ai rencontré à deux reprises, Walter Roth. J'ai trouvé quelqu'un. Et bon, il dirigeait le musée qui s'était ouvert quelque temps avant. Ça prenait tournure à Roswell, si je puis dire. Et il m'a reçu très gentiment, très cordialement, à deux reprises, en tête à tête. Et il m'a fait comprendre. J'ai pas compris tout de suite, en fait. Mais il a essayé de me faire comprendre qu'il pouvait pas tout me dire.
Ouais.
Il a beaucoup insisté sur le fait qu'il y avait une discipline très sévère sur cette base, ce que l'on peut croire volontiers s'agissant de la base des bombardiers atomiques. J'ai pas compris tout de suite, à ce moment-là. Mais il m'a fait une très forte impression de quelqu'un vraiment de très crédible.
Ouais.
Bon, il est mort en 2002, mais en 2005, on a publié cette déclaration qu'il a faite avant de mourir. Elle a été publiée avec l'autorisation de sa propre fille, qui a repris le musée ensuite. Et là, il raconte beaucoup plus, assez en détail, ce qui s'est passé. Et que on a le texte, il a été publié dans le livre de Carré et Schmitt. Et il raconte, bon, c'est assez long, hein, ça. C'est dans mon livre également, sur plusieurs pages. Mais il y a deux ou trois choses très importantes là-dedans. L'une des plus importantes, peut-être, c'est que son colonel Blanchard, avec lequel il était en très très bon rapport, l'a emmené voir brièvement l'OVNI et les cadavres dans le hangar où on l'avait stocké.
Ouais.
Le hangar P3 de Roswell. Alors ça m'impressionne beaucoup parce que je connais l'homme, j'ai rencontré et je suis absolument certain qu'il dit la vérité. C'est pas possible qu'il ait raconté des histoires de ce type-là.
Oui, d'autant que c'est un témoignage qu'il a tenu à garder jusqu'à sa mort. Il avait expressément demandé à sa famille, etc., que ce témoignage ne soit donné qu'après sa mort.
Exactement, exactement. C'est cela. La famille a autorisé donc la publication en 2005 et c'était une déclaration datée de 2002. Alors dès que elle avait quand même filtré un petit peu parce que l'une des personnes qui s'intéressait le plus à ce moment-là et qui connaissait connaissais ces gens-là, qui s'appelait Wendy Connors. C'était une ancienne militaire américaine très, très, très solide, très, très crédible également. Elle avait commencé à laisser entendre que, donc, certains aspects du communiqué de presse. Mais c'est seulement en 2005 qu'on a eu le texte complet. Vous voyez, tout ça, c'est intéressant de voir que c'est une histoire qui se déroule sur des décennies. Hein.
Oui.
Et ça s'est révélé petit à petit, par petits morceaux.
Oui.
Un aspect important, je viens de vous le citer, de son communiqué, c'est qu'il a vu l'OVNI des cadavres. Et puis l'autre aspect intéressant, à mon avis, c'est que il décrit la réunion à laquelle sont venus le général Ramey, l'homme du démenti des ballons météo, et le colonel Dubose. Et ils sont venus pour ça. Alors ceci peut-être nous amènerait à parler de ce qui s'est passé en 1995, si vous voulez.
Absolument.
Hein? Parce que à partir de ces années-là, le premier livre de 91, qui a fait beaucoup de bruit, qui a beaucoup intéressé, de Kevin Randall, Donald Schmitt, ils ont fait un deuxième livre en 94. Alors, il a eu des problèmes, ce deuxième livre, parce que ils se sont appuyés sur des témoins qui se sont révélés non fiables, qui ont été discrédités. Ouais. Alors, on va peut-être pas insister là-dessus, mais ils ont fait surtout du très bon travail dans l'ensemble. Mais il s'est passé qu'en 1994, il y a un député du Nouveau-Mexique, Stephen Schiff, qui commençait à être très énervé par toute cette histoire, un député républicain au demeurant, et qui a demandé des explications à l'armée de l'air. Il n'a rien obtenu du tout, alors du coup, il s'est retourné vers la commission d'enquête du Congrès, le GAO, le General Accounting Office, et il a demandé une enquête. Et ils ont accepté, ils ont fait l'enquête. Et je vous dis tout de suite, je l'ai, le rapport du GAO, qui est paru en 1995, et qu'est-ce qu'ils disent ? Eh bien, ils disent que le débat sur ce qui s'est écrasé à Roswell continue. C'est en toute lettre, c'est la première page. Alors là, il faut revenir un tout petit peu en arrière, parce que ce document, qui est un document tout ce qu'il y a de plus officiel, hein, du Congrès américain, est une sorte de réplique à la nouvelle explication qui a été fournie cette année-là, même dès 1994.
Oui, parce qu'il faut préciser que face à l'avalanche des témoignages, l'armée américaine n'est pas restée muette, évidemment.
Voilà, elle s'est réveillée à ce moment-là, et ils ont commencé à raconter que, oui, non, c'était pas un ballon météo, mais c'était une grappe de ballons météo. C'était le fameux... un ensemble de 20 à 25 ballons avec des cibles radar qui s'appelaient, qui avaient un surnom, les ballons mogouls. Et c'était donc ça qu'ils avaient découvert. Alors c'était beaucoup plus impressionnant, et ça explique qu'ils aient pris ça pour une soucoupe volante. En réalité, quand on regarde les choses de plus près, ils ont publié un livre de 1000 pages en 1995. Il y avait un premier document en 1994, puis ensuite un livre de 1000 pages, et on voit bien qu'en réalité, c'est toujours des cibles radar, des ballons météo, c'est du matériel, tout ce qu'il y a de plus banal en réalité. Mais ce qui s'est passé, c'est que une grande partie de la presse, donc en 1995, a accepté cette explication. Il y a eu un article de pleine page dans Libération, je l'ai sous les yeux, le 8 août 95, avec un gros titre, « L'armée US dégonfle ses ovnis », sous-titre, « Une commission du Congrès met un coup d'arrêt à une vieille rumeur ». Voilà, c'était le ton. C'était un article signé du sociologue Pierre Lagrange. Eh bien, ce titre est faux. Il est absolument faux.
Ouais.
Je viens de vous le dire. La commission du Congrès n'a pas accepté l'explication.
Ouais. C'est tout à fait incroyable. C'est-à-dire que la presse française, pratiquement dans son ensemble, a expliqué que le GAO avait avalisé la thèse de l'armée de l'air.
C'est le contraire. C'est pas vrai. J'ai le rapport sous les yeux. Je l'ai acheté. Je me suis procuré. J'ai même téléphoné au GAO à Washington.
Ouais. Est-ce que vous avez contacté la presse française?
Bah oui, bien sûr. Ouais. Bien sûr que j'ai écrit, mais... Vous savez, il y a un tel scepticisme, il y a un tel mur de scepticisme qui a été construit et entretenu que c'est très difficile de faire changer d'avis. Il y a 2 mois, j'ai été interviewé par un journaliste tout à fait convenable de France Culture pendant 1 heure. Je lui ai expliqué tout ce que je vous raconte. Mais il m'a pas vraiment écouté. Je lui ai dit, je vois que vous ne croyez à rien de ce que je vous raconte. Et il m'a dit non. C'est comme ça.
C'est comme ça. Alors, je voudrais aussi qu'il y ait quelque chose qui est très intéressante dans l'enquête du GAO, dont le GAO est allé vraiment jusqu'au bout, et elle est allée de surprise en surprise en découvrant notamment que des archives de Roswell avaient totalement disparu.
Alors, pas totalement. Il y a des gens qui disent qu'elles ont été totalement détruites. C'est inexact. Il y a une partie importante, tout ce qui aurait pu prouver le crash de Roswell, et c'est cette partie importante qui a disparu, notamment tous les téléx, les communications, etc.
Alors, normalement, je crois que quand des archives sont détruites, on en donne le pourquoi de la destruction.
Oui, la destruction doit être motivée, signée par l'officier chargé de... ça n'a pas été fait, il n'y a aucun motif.
Voilà.
Donc ça aussi, là, on est sur une zone d'ombre... vraiment très sombre, là.
Ouais.
Et le GAO, ils n'ont pas voulu trop insister. Ils ont fait leur travail, mais ils n'en ont pas fait une histoire à tout casser.
Ouais.
Comme s'ils n'avaient pas envie, vraiment, de casser la baraque, si j'ose dire. Parce que le GAO, c'est quand même un organisme gouvernemental de haut niveau qui dépend directement du Congrès américain. Et ils se tiennent tous un petit peu par la barbichette, c'est le sentiment. Mais ils ont quand même fait leur petit rapport qui a refusé, ils ont quand même eu le courage de refuser l'explication des ballons.
Ouais.
Ça, c'est un point important.
Alors, il y a aussi un témoignage que je trouve intéressant. Il ne figure pas dans votre livre, mais on peut le découvrir dans un film qui s'appelle « OVNI, le secret américain ». Un film qui, d'ailleurs, étrangement, j'ai appris qu'il avait été diffusé un peu en séance.
Par France 2. Non, mais je le connais, ce film, parce que je suis dedans, figurez-vous.
Voilà.
Je suis interviewé dedans.
Voilà. Et il a été, je crois, diffusé en séance privée à l'Assemblée nationale aussi.
Oui. Séance semi-privée, si on veut, oui.
C'est
j'y étais. J'étais invité, puisque j'avais participé un petit peu à l'élaboration du film.
Voilà. Alors, dans ce film, on voit que la secrétaire de Allen Hynek, qui a été...
Ah, oui, vous avez tout à fait raison. C'est un témoignage très intéressant vers la fin du film. Elle raconte l'ancienne secrétaire de l'astronome Allen Hynek, qui était également... un personnage important dans toute cette histoire des ovnis. Il a été pendant 20 ans le conseiller scientifique de l'armée de l'air américaine pour sa commission d'enquête, la fameuse commission Livre Bleu, qui a été fermée en 1969. Et à la suite de quoi, l'astronome Allen Hynek a publié en 1972 un livre se démarquant complètement de cette ligne officielle et disant « Oui, mais moi, j'ai étudié tout ça pendant 20 ans ». Au début, j'y croyais pas du tout, mais petit à petit, je me suis absolument convaincu de l'existence des ovnis. C'est un livre qui a été publié en 1972.
Oui, qui a fait date.
Qui a été publié et traduit l'année suivante en France par par Belfond. Et entre parenthèses, c'est le fils de cet éditeur, Belfond, qui m'a publié mon livre. Il l'a publié une première fois. En 1995, un premier livre s'intitulait « Sont-ils déjà là ?» Je vais en dire un mot, si vous voulez. Et parce qu'il y a aussi un autre aspect intéressant, c'est le fameux film de l'autopsie. J'aimerais bien en dire un mot, si on a encore un petit peu de temps.
Tout à fait. Juste dire que la nature du témoignage de Hynek à sa secrétaire...
Alors, Hynek, elle a révélé, cette femme, à la retraite, déjà ils étaient à la retraite à ce moment-là, qu'en 1973, par là, Comme le bruit commençait à filtrer déjà de toutes ces histoires d'ovnis, de découvertes, de cadavres, ça circulait déjà, ou de rencontres, de contacts secrets, elle lui a demandé à Hynek, marge d'une réunion, par un petit papier écrit, elle dit « Alors, qu'en est-il? Est-ce que c'est vrai ?» Et il lui a répondu par le même procédé « Oui, c'est vrai, ça s'est produit... » White Sands. Qu'est-ce qui s'est produit? Eh ben, une rencontre ultra secrète avec des extraterrestres. C'est l'ancien astronome de l'Air Force.
De l'Air Force qui a révélé
ça sur un bout de papier.
C'est absolument incroyable. Hein.
C'est pas mal. Hein.
Oui. Oui.
Et ce qui était extraordinaire, c'est que c'est, 2 ans après, Alan Hynek, qui était à ce moment-là, qui ne travaillait plus pour l'armée de l'air, il a travaillé pour le film de Steven Spielberg. Il a été conseiller scientifique pour le film de Spielberg, Rencontre rapprochée du troisième type.
Oui, on le voit apparaître
dans la scène finale, ouais. Grandiose, où un énorme ovni atterrit derrière la montagne. Il est là sur le plateau avec sa pipe.
Alors,
c'est assez intéressant aussi.
Oui. Et il nous reste encore quelques minutes. Vous vouliez donc parler évidemment de l'autopsie de Roswell,
oui,
c'est-à-dire
alors,
de...
c'est un autre aspect intéressant qui mérite d'être rappelé ici parce que ça a fait quand même beaucoup de bruit. Tout ça, c'est... Nous revenons en l'année 1995 et au début de l'année, ou même à la fin de 1994, on commençait à annoncer en Angleterre, il y avait un petit producteur de musique britannique, Ray Santilli, qui a commencé à faire ça, à raconter avec un ami des amis, Ray Presley, je crois, qu'ils avaient mis la main sur un film d'autopsie d'un extraterrestre qu'il avait acheté un vieux caméraman américain avec un lot, alors qu'il enquêtait sur, il cherchait des images d'archives sur Elvis Presley, je crois. Il était tombé là-dessus par hasard. Alors c'était assez bizarre. Ça a duré comme ça pendant plusieurs mois. Pendant 6 mois, on a annoncé, attention, ça va bientôt arriver. Et effectivement, il y a eu une présentation à Londres. Je me souviens encore très bien de cette affaire parce que j'y étais. J'avais demandé à y participer le 5 mai 1995 à Londres. Et on nous a montré un film, ce fameux film, qui a été montré au grand public par la suite, notamment en France par Jacques Pradel,
émission
mémorable à TF1. Et bien souvent, les gens, quand ils savent rien de Roswell, quand ils savent juste comme ça 2 ou 3 bricoles, c'est ça dont ils se souviennent. Ah, c'est le film, le canular de l'autopsie de Roswell. Et alors effectivement, bon, et on va raccourcir, il y a eu un débat énorme à l'époque, c'était un film tout à fait étonnant, avec un cadavre autopsié par des médecins qui étaient dont on ne voyait pas le visage, qui étaient recouverts par une espèce de cagoule. C'est bien commode pour cacher le visage, n'est-ce pas? Et en fait, on a tout lieu de penser aujourd'hui que c'était une opération de désinformation très sophistiquée. Le cadavre ne tenait pas bien la route, il était très gros, il avait un gros ventre, il avait 6 doigts aux mains et aux pieds. Donc ça correspondait pas du tout aux descriptions qu'on avait. On avait des cadavres à 3 ou 4 doigts à l'époque. Et ainsi de suite. Donc tout ça, ça a explosé, disons. Ça a complètement saccagé toute l'histoire de Roswell et ça s'est répercuté sur l'ufologie en général. Ça a été un grand recul, cette affaire de l'autopsie. Voilà. Et donc maintenant, alors il y a une équipe d'Anglais qui se sont mis à raconter que c'est eux qui avaient fait le film. Et ils l'ont répété ça encore au cours des années 2000. Mais ils n'ont apporté rigoureusement aucune preuve de cela. Il aurait suffi qu'ils produisent une photo de cette fine équipe autour de ton cadavre. Mais non, ils n'avaient rien. Et donc, en réalité, ce sont tous des menteurs, des fiefs menteurs, cette équipe de Britanniques, dont Ray Santilli, d'ailleurs. Ouais. Voilà, enfin, c'est... Bon, on a écrit des volumes là-dessus, j'en ai parlé assez longuement dans un livre précédent, mais là, maintenant, je préfère rester assez bref là-dessus. Mais il est bon de rappeler cette affaire, parce que on voit à quel point il y a eu de la désinformation, en fait, et des opérations de... canularesque, ouais, de désinformation sur toute cette histoire.
Alors, on a vu que les... Notamment Hillary Clinton, durant la campagne, avait dit, la dernière campagne des présidentielles aux États-Unis,
oui,
a dit, voilà, si je suis présidente, je dirai tout, je révélerai tout sur... Sur le cover-up autour des ovnis, on pensait évidemment à Roswell.
Ouais.
Est-ce que vous pensez que au plus haut niveau, on sait de quoi il retourne, ou est-ce que même le président des États-Unis...
Ça Ça dépend de quelles équipes. Je dirais, pour faire très simple, que les équipes, les présidents républicains ont été généralement très bien, très au courant. Mais par contre, les démocrates ont été un peu maintenus à l'écart, comme Carter, et puis Clinton, les époux Clinton. Mais moi, j'ai un témoignage privé qui, selon lequel Hillary Clinton aurait dit à des gens qui l'avaient rencontré en Californie que son mari, elle, avait été briefé, mais qu'il pouvait rien dire. Et puis après un moment de pause, elle dit, mais je vais quand même vous dire une chose. C'est que l'affaire de Roswell, c'est encore plus étrange que ce qu'on croit. Que ce qu'on croit savoir. Mais alors ça, c'est sous toute réserve. Je me risque à le dire sur une radio publique, mais je n'ai aucune preuve de ce que j'avance. Ouais. C'est un témoignage privé.
Ouais, bon, on vous remercie de la confiance que vous nous témoignez en nous livrant ce témoignage.
J'espère que je ne vais pas me faire fusiller pour ça.
Gildas, un grand merci. Donc, je rappelle votre livre, Roswell, la vérité, publié aux presses du Châtelet. C'est un livre qui est vraiment une somme sur le sujet, qui est très bien résumé. On comprend quand même mieux ce qui s'est passé après avoir lu votre livre.
C'est mieux résumé que ce que je viens de vous raconter, parce que j'ai été un peu brouillon et je vous prie de m'en excuser.
C'est que le sujet...
Mais j'ai eu beaucoup de plaisir à répondre à vos questions.
Et le sujet est très complexe, il faut le dire.
Oui, c'est très complexe.
Voilà. Merci beaucoup.
Et voilà, maintenant, c'est à vous de vous faire votre propre idée sur cette affaire de Roswell, peut-être en lisant tout d'abord le livre de Gildas Bourdet, Roswell, la vérité, publié aux presses du Châtelet. Voilà, excellente fin de journée à toutes et à tous. On se retrouve la semaine prochaine pour un nouveau témoin de l'invisible consacré à l'histoire de l'ufologie française. Je ne vous en dis pas plus. À très bientôt. Watch you drinking rum or whiskey. Now won't you have a double with me?